Bonjour, mercredi 7 août jusqu'à 13h, c'est Aime l'été, ici Chantal Lavoie. Bien hâte de vous présenter nos invités et nos sujets. Remerciements d'abord à notre équipe, Nathalie Barrette, chef recherchiste et ma copilote en même temps, Clarence Robitaille-Meloche, collaboratrice au contenu, et Samuel à la mise en onde et à la réalisation. Et oui, cela dit, une autre belle heure qui s'en vient. On parlera beaucoup de cécité, de malvoyance au cours de l'émission. On va en discuter avec deux personnes qui en sont atteintes et qui sont en même temps de fidèles auditrices de Canal M. On va également s'intéresser aux jeux vidéo adaptés avec quelqu'un qui veut rendre le jeu numérique plus accessible et en bonifier l'expérience en même temps. Et il sera question de littérature et de théâtre jeunesse. On va en jaser avec un auteur de livres pour les jeunes qui a beaucoup à dire sur le sujet. Je vous invite à nous suivre à Aime l'été. Eh bien, aujourd'hui, on reçoit Thomas Gaudry, concepteur de jeux vidéo adaptés. Il sera accompagné, évidemment, on aura un autre invité sur le même sujet. Il a fondé Ludociel, une entreprise d'économie sociale qui a pour mission de favoriser l'inclusion numérique. Nous allons retrouver Élie Marchand, qui, en tant qu'auteur, s'est spécialisé en littérature et en théâtre jeunesse. Il va partager sa passion avec nous, mais nous allons, au cours de la prochaine demi-heure, aborder le sujet de la cécité ou de la malvoyance avec des personnes qui sont atteintes de maladies oculaires et vont partager leur expérience et leur vécu avec nous. Sont deux amis en plus, Anne Jarry et Bianca Lucier. On les accueille toutes deux dans un instant. Voici Aime l'été. Aime l'été, alors mercredi effectivement, milieu de semaine. Bonjour Nathalie.
Salut, comment tu vas?
Mais très très bien. Ah. Écoute, ça t'arrive d'aller parfois au resto, de te déposer.
Ouais.
Oui, et puis là, tu es allée l'autre jour dans un resto et tu as fait une rencontre assez particulière. Ben, et ben, ce sont nos deux invités que nous allons accueillir. Et puis tu vas nous les présenter, en quelque sorte.
Ce qui est sympathique, c'est que j'arrive au resto, il y a une table, on dirait qu'elle était là juste pour moi. Puis à côté, il y a deux gentilles dames dynamiques qui parlent de radio, parlent de non-voyance, malvoyance. Puis là, à un moment donné...
Parlent de Canal M.
Ils parlent de Canal M. En fait, parlent de radio. Après ça, Canal M, Et puis après ça, écoute, je suis trop curieuse. je suis allée leur parler, puis je me suis jointe à elles pendant un certain temps. Puis on a jasé. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, venez nous en parler de ce que vous vivez. Parce que Anne, qui était l'enseignante de Bianca, sont demeurés amis. Donc, elle était enseignante, professeure en...
C'est-à-dire que Anne était
professeure
agrégée à la retraite de l'Université de Montréal.
Exactement.
Donc, spécialisée en réadaptation, réadaptation oculaire, visuelle, c'est ça. Et puis, Bianca...
C'était l'élève.
Alors, elle fait la même chose aujourd'hui. Alors, c'est merveilleux. Et les deux ont quand même, à leur façon, une déficience visuelle. Alors, on va en parler, bien sûr, de chacune à ses particularités. Alors, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, on va commencer peut-être par Anne, la doyenne.
La doyenne. Commençons par la doyenne.
Anne, alors, c'est ça. Donc, vous étiez professeure et votre handicap visuel, c'est de naissance, Est-ce que c'est vous qui... C'est pas vous, ça.
Non. Moi, ce n'est pas de naissance. Ma chère amie Bianca, c'est de naissance.
Ah, d'accord. Oui. Bon.
Moi, c'est suite à des complications liées au diabète juvénile que j'ai depuis l'âge de 8 ans et à l'âge de 24 ans, des problèmes graves de santé et de vision se sont manifestés et je me suis retrouvée avec une déficience visuelle sévère à l'âge de 24 ans.
Parce que c'est une des conséquences du diabète, Il y a bon nombre de conséquences au diabète, mais les problèmes de vision, ça vient avec.
Les problèmes de vision sont dus, je peux peut-être expliquer brièvement.
Allez-y, on vous écoute, on a la demi-heure pour en parler.
D'accord. brièvement, le diabète, c'est que notre corps ne produit plus d'insuline. À quoi sert l'insuline? L'insuline permet de régulariser le taux de sucre dans le sang. Mm-hmm. Si vous mangez beaucoup, votre taux de sucre va naturellement monter un peu, mais très rapidement, votre corps va s'ajuster, va vous donner de l'insuline et votre taux de sucre va rester normal. Une personne comme moi doit s'injecter de l'insuline parce que mon corps n'en produit plus.
D'accord.
Le fait de ne pas avoir un taux de sucre normal crée à la longue des problèmes au niveau des vaisseaux sanguins. Le système cardiovasculaire devient plus fragile avec le temps. Et les premiers organes qui sont affectés, ce sont ceux qui ont les plus petits capillaires sanguins. Et les plus petits capillaires sanguins se retrouvent au niveau des yeux, des pieds, des mains et des reins. Donc, souvent, on va voir des personnes diabétiques qui ont des difficultés ou des premières problématiques au niveau des petits capillaires sanguins. Et ça a été mon cas où ça s'est beaucoup, beaucoup logé au niveau des yeux dès l'âge de 23 ans. Beaucoup d'opérations pour tenter d'enrayer le problème. Aujourd'hui, en 2024, on voit presque plus de personnes qui deviennent aveugles comme moi j'ai eu à faire face à l'âge de 24 ans. Les progrès en ophtalmologie, les progrès au niveau des traitements du diabète ont beaucoup évolué. Malgré ceci, la cause numéro un chez les adultes entre 18 et 65 ans de cécité au Canada reste le diabète. Alors qu'avant, c'était la cause numéro un dans le monde. Maintenant, c'est plus chez les adultes. Et donc, de devenir complètement aveugle, ça peut encore arriver, mais c'est plus rare. Et je pense que ces statistiques vont changer avec le temps. On voit de moins en moins quand même de personnes adultes avec des cécités, comme c'est mon cas.
Et la prévention, forcément, ça joue pour beaucoup.
Anne, vous êtes complètement aveugle, vous ne voyez rien du tout?
Non.
Il y a pas... okay.
Je vois encore un peu. Mm-hmm. J'ai perdu l'œil gauche complètement et l'œil droit, malheureusement, il faiblit beaucoup là, depuis 3-4 ans. Et j'ai encore un tout petit peu de contraste et de possibilité lorsque la lumière est adéquate de voir des objets et des éléments contrastants autour de moi.
Parce qu'il y a beaucoup d'outils maintenant aussi. Vous êtes assez outillé à tous les niveaux là, pour améliorer cette capacité, le peu que vous voyez. Justement, vous parlez de contraste. La lumière compte aussi, c'est assez important. Étonnamment, les couleurs aussi, sans les distinguer toujours, là, parce que vous voyez parfois, il y a une vision en noir et blanc, mais les couleurs quand même contribuent peut-être à accentuer les contrastes, je pense.
Chantal, vous êtes curieuse, comme la plupart des gens veulent comprendre qu'est-ce qu'on voit. Et ce que j'ai expliqué à Nathalie l'autre fois et que je réexplique, c'est que l'œil normal comprend 126 millions de cellules nerveuses pour nous permettre de voir. De ces 126 millions de cellules, il y en a 6 millions qui sont au centre et qui nous permettent d'avoir une acuité, une perception des détails qui est fine et qui permet de reconnaître les gens, bien reconnaître toutes les couleurs, reconnaître des images et tout ça. Les autres 120 millions, c'est pour reconnaître toute la périphérie de notre vision, tout ce qu'on voit en général.
D'accord.
Et donc, en fonction de quelle pathologie oculaire la personne a vécu, quelle partie de l'œil est atteinte, on va perdre une partie, en tout ou en partie, de ces cellules au centre ou des cellules en périphérie. Dans mon cas, j'ai à peu près tout perdu au centre, je dirais tout, et il m'en reste un tout petit peu en périphérie. Donc, sur les 126 millions, pendant de nombreuses années, j'en ai peut-être eu 120 millions manquantes puis un 6 millions qui fonctionne encore. Mais aujourd'hui, je vous dirais, il m'en reste peut-être 500 000, je ne le sais pas.
Ouais.
Et elle fonctionne lorsqu'il y a un éclairage très fort pour stimuler puis allumer les neurones qui restent pour leur donner un rôle. Mais dès que ça devient plus sombre, pouf, tout s'éteint puis je me retrouve dans le noir.
Anne, j'aimerais aborder avec vous le sujet. Vous avez reçu votre diagnostic de diabète de type 1 à quel âge?
À l'âge de 8 ans.
De 8 ans. Et vous avez perdu la vision, vous disiez, à l'âge de 23 ans. Votre qualité de vie depuis le diagnostic, comment vous la vivez, votre vie au quotidien? C'est ce que je me pose, quand vous étiez jeune et maintenant.
Mais je vous dirais, lorsqu'on a un diabète de type 1 et qu'on est jeune, il peut arriver... Moi, je dis que ce n'est pas une maladie pour les adolescentes ou les adolescents.
Mm-hmm.
Je n'ai pas été en mesure de bien contrôler mon diabète à une certaine époque. Et donc, l'aide médicale que j'ai eue après avoir perdu la vue, je vous dirais, m'a sauvé la vie. L'aide médicale, les services psychosociaux, les services de réadaptation, l'Institut Nazareth et Louis Braille a été extraordinaire. Et la parole ira à Bianca pour ça. Mm-hmm. J'ai eu beaucoup de services après qui m'ont permis de faire face à moi-même, ce que je ne faisais pas à l'adolescence, que malheureusement, souvent, on ne fait pas. Et j'ai payé très cher, je dirais, mes erreurs d'adolescente. Mais je suis mieux dans ma peau. Alors, des fois, les gens perçoivent que ça doit donc être terrible d'avoir une déficience visuelle. Non, non, c'est bien pire être mal dans sa peau.
Ah, c'est intéressant ce que vous dites, oui. Tout est relatif, finalement, hein, c'est
tout
ça?
Tout est relatif.
Ouais. Alors, Nathalie, qui est très émue. Oui, oui, effectivement, c'est très beau ce que vous dites. Et puis, ça nous fait réfléchir tous, bien sûr. Alors, parce que, en fait, le véritable handicap, hein, ce sont ce qu'on se met comme limite, au fond.
Absolument. Ouais. On a une pression sociale, parfois, qui nous empêche de vraiment comprendre qui on est, puis accepter à la fois... Les petits défauts qu'on peut avoir, on n'est pas parfait.
Oui.
Et de ne pas avoir peur de notre imaginaire qui, parfois, peut faire peur aux autres ou nous faire peur à nous-mêmes, ouais. Puis nous amener dans des zones où on se fait du tort.
Anne, les adolescents qui nous écoutent aujourd'hui, vous leur dites quoi?
Je leur dirais, ne vous isolez pas. Moi, je me suis beaucoup isolée. J'étais toute seule comme une huître dans un petit coin pendant des années. À ne pas aimer mon identité. Écoutez, c'est la semaine de la fierté gay. Alors, pour bien expliquer, j'ai un chandail, semble-t-il.
C'est vrai. Vous êtes arc-en-ciel.
Qui ressemble
vous êtes arc-en-ciel aujourd'hui. C'est
oui,
vrai.
Oui. Moi, j'aimais pas mon identité sexuelle. J'étais en pleine crise d'identité. J'étais pas bien. Je l'acceptais pas. J'étais homosexuelle et je ne le voulais pas. J'ai donc fait de graves erreurs avec ma santé. Aujourd'hui, je suis très bien dans ma peau et très bien avec moi-même. Voilà. Je dirais, ne faut pas s'isoler, il faut en parler à ceux.
Alors ça, vous l'avez, j'imagine, communiqué à Bianca, qui a été votre élève. Et oui, Bianca Lucier, parlons de vous maintenant. Parlons d'abord vous, c'est de naissance. Là.
Oui.
Bon, alors c'est vraiment... comment c'est quand on n'a pas... C'est-à-dire qu'évidemment, dans le cas de Anne, elle a déjà vu, bien sûr, alors... Tandis que quand on n'a pas eu l'occasion de voir depuis la naissance, comment on vit avec ça?
Oui, bien, premièrement, je dois dire que je vois.
C'est ça, vous êtes malvoyante.
Je suis malvoyante.
Hein? Exactement. C'est pas une
je suis pas non-voyante, c'est ça. Non, j'ai de la vision qui est fonctionnelle, mais qui est loin d'être parfaite, puis qui ne peut pas se corriger avec des lunettes. Dans le fond, quand on parle de déficience visuelle, malvoyance, c'est quand, malgré toutes les opérations, malgré toutes les lunettes, la personne a quand même une vision qui est pas celle de monsieur, madame, tout le monde. Donc, dans mon cas, moi, c'est une pathologie qui touche la rétine qui s'appelle achromatopsie.
Mm-hmm.
En fait, c'est les cônes de la rétine qui sont pas formés adéquatement. Donc, ça peut pas... Les lunettes vont plutôt corriger quand l'œil a pas tout à fait la bonne forme, l'image va pas se faire tout à fait comme il faut sur la rétine. Donc là, on prend une paire de lunettes, puis hop, c'est à focus, et là, la personne voit bien. Mais dans mon cas, c'est vraiment la rétine elle-même qui fonctionne pas parfaitement. Donc, l'information, quand c'est envoyé au cerveau, c'est pas parfait. Donc, le résultat de comment je vois, c'est toujours difficile à décrire pour répondre à votre question.
Ouais, c'est sûr.
Parce que moi, c'est de naissance, comme vous le disiez. Donc, j'ai jamais bien vu. Moi, j'ai, contrairement à Anne, j'ai pas eu un gros deuil de avant et après. Moi, c'est plutôt petit à petit que j'ai appris que je voyais pas bien et les impacts que cela pouvait avoir sur ma vie. Parce que moi, je m'en rendais pas compte quand j'étais enfant que comment les autres voyaient.
Ouais.
Ça m'a pris du temps à comprendre les impacts de ça. Comme je vois pas bien les sourires, si quelqu'un, le non-verbal, si quelqu'un a comme des étoiles dans ses yeux ou des yeux gentils ou des yeux méchants, des choses comme ça, ça va être difficile pour moi de reconnaître les personnes. Je vais écouter la voix, je vais me fier à la forme de la personne, la morphologie, les vêtements. J'ai plein de petits trucs.
Oui, parce que vous développez des habiletés. C'est comme n'importe quel handicap de naissance, au fond. On va pallier à cet handicap-là d'une autre façon. Alors, vous avez développé des trucs, comme vous dites.
Exact. J'ai développé des petits trucs. Fait que ça va servir la plupart du temps, mais il arrive toujours des cas où on peut ne pas reconnaître quelqu'un malgré tous les trucs qu'on a utilisés. Mais oui, en général, les trucs vont aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des fois, on a même des trucs sans s'en rendre compte. Ça devient un peu comme une seconde nature. Fait que voilà, fait que moi, c'est ça, je peux pas vraiment comparer à Anne, c'est très, très, très différent. Mais en gros, ce qu'on on doit retenir de ma vision, c'est que je vois pas bien les couleurs.
C'est ça, toi, c'est les couleurs.
Les couleurs. Je vois les couleurs très vives, comme là, je vois qu'on est en onde, on a un voyant rouge qui nous l'indique, parce que c'est très, très, très rouge. Mais c'est la seule couleur que je peux vous dire ici dont je suis certaine. Le beau chandail de Anne, de la fierté, il est très voyant, donc je peux voir les couleurs. Mais comme Chantal, pas Chantal, Nathalie, je vois que sur votre chandail, il y a des couleurs, mais je peux pas, tu sais, des motifs, mais je peux pas dire c'est quoi. Fait que, puis je vais voir mieux quand les personnes sont prêtes. Sinon, c'est, puis sinon, j'ai pas de détails, en fait.
Ouais.
Puis le dernier symptôme important, c'est la lumière qui va beaucoup, beaucoup me déranger.
Mm-hmm.
Pour moi, comme pour beaucoup de personnes qui ont une déficience visuelle, la lumière, c'est notre meilleur ami ou notre meilleur ennemi selon la situation. Là.
Ah, fait
que... Parce que quand on était au restaurant, je me suis penchée pour jaser avec elle. Et puis, Bianca, tu m'as dit, je me suis placée exactement ici parce que si je te voyais dans la lumière, je verrais rien du tout.
C'est ça.
Alors, toi, tu es placée au restaurant précisément parce qu'on était sur le bord de la fenêtre.
Oui.
Puis la lumière dehors faisait beau, tout ça. Donc, tu t'étais placée précisément pour bien voir
exact.
Ce que tu pouvais, du moins.
C'est ça, le mieux possible de ce que je peux voir. Ouais.
Exactement.
L'idée, en fait, c'est que la lumière va faire comme une photo à contre-jour. C'est souvent comme ça que je vais l'exprimer. Une photo à contre-jour où on voit le soleil face à la personne qui prend la photo. S'il y a quelqu'un entre la personne et le soleil, la personne va être comme noire un peu. Il n'y aura pas de « bon, mais moi, ça me fait ça dans la vie réelle, pas juste sur les photos. » Donc, je vais avoir tendance à mettre la lumière sur un des côtés ou derrière moi, mais pas devant moi. Fait que la lumière doit éclairer ce que je regarde et non être dans mes yeux. C'est ma façon de m'adapter.
Donc, tous les outils dont vous disposez, est-ce que, bon, il y a des outils qui vous aident grandement? J'imagine, par exemple, vous pouvez soit aller sur l'ordinateur. Il y a plein de choses que vous pouvez faire quand même avec les nouveaux outils qui sont à la fine pointe, là.
Je dirais, en général, quand on a une déficience visuelle, à peu près tout est possible, mais avec plus d'efforts.
Je
sais pas, Anne, si tu vois ça.
Tout à fait d'accord.
Donc oui, c'est possible d'aller sur Internet, c'est possible. Je veux dire, on est dans la société en 2024, là, on n'est pas dans un monde qui n'est pas numérique. Au contraire, même moi, je dis souvent qu'avoir une déficience visuelle aujourd'hui, c'est probablement beaucoup plus comment dire, peut-être pas facile, mais on peut beaucoup plus s'intégrer probablement dans la société, avoir un travail, etc., que en 1920.
Mm-hmm.
De par la technologie et tout ça. Donc oui, puis moi, c'est mon travail dans la vie d'enseigner beaucoup les technologies adaptées. Donc oui, tout ça est possible.
Vous enseignez donc à l'Institut Nazareth et Louis Braille, c'est
ça? Oui, bien en fait, je suis spécialiste en réadaptation en déficience visuelle. Donc oui, dans mes tâches, je vais enseigner, mais c'est surtout que je vais rencontrer, on les appelle les usagers chez nous, donc les personnes qui ont une déficience visuelle. Puis je vais leur regarder avec eux, mettons, la personne vient d'avoir son diagnostic. Elle vient de perdre la vision, puis là, il y a plein de choses qu'elle n'est plus en mesure de faire. Donc, on va faire un tour avec la personne. Qu'est-ce qui est important pour elle? Qu'est-ce qu'elle veut reprendre comme activité? Puis là, bien, on se fait un plan de match. OK, on pourrait faire telle chose. Par exemple, vos textos, bien, on pourrait utiliser une revue d'écran pour pouvoir les lire de façon sonore. On pourrait les dicter. Puis on va choisir les moyens, bien, selon le profil de la personne.
Alors donc, et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, bon, la communication. Le cas, bon, Anne, comment on s'adresse? Quel piège éviter? Quand on rencontre quelqu'un comme vous, qu'est-ce qui est peut-être la bonne façon de faire? Enfin, à quoi il faut penser? Parce qu'évidemment, on oublie trop facilement parce que, d'abord, vous êtes très éloquente, vous avez été prof d'université, vous êtes un bon professeur d'université. C'est sûr qu'à ce moment-là, bon, des fois, on oublie finalement que vous êtes, non-voyante. Et puis, comment on doit communiquer de préférence avec quelqu'un qui a ces problèmes?
C'est une question très philosophique, ça.
Oui.
le plus naturellement possible, je dirais. Puis d'oser dire que si c'est la première fois qu'on est en contact avec une personne, de pouvoir dire, écoutez, je suis pas certaine quoi faire. Alors, le mieux, c'est de dire, comment je peux t'aider? Et ça dépend beaucoup du contexte, qu'on soit assis ici ensemble aujourd'hui et que j'ai besoin d'un verre d'eau ou que j'ai besoin de traverser la rue avec une personne qui est incognito, que je verrai plus après avoir traversé la rue. Ça peut être un peu différent, l'approche qu'on va prendre. Ce qui est pareil pour tout le monde, c'est... Comment je peux t'aider?
Mm-hmm.
Est-ce que je peux faire quelque chose? Et le demander, et d'entendre la réponse. Parce que malheureusement, des fois, les gens en font trop, ils veulent en faire plus. Ils vont faire sans savoir que la personne, elle n'a peut-être pas besoin d'aide, elle a juste besoin d'un petit peu plus de temps pour toucher ce qu'il y a autour d'elle. Et puis, il y a des techniques qu'on enseigne sur comment offrir le bras à une personne pour que cette personne puisse prendre le coude et se laisser guider par la personne qui guide avec un pas à l'avant. Comme ça, moi, si je tiens votre bras, Chantal, si vous descendez une marche, je vais sentir votre bras descendre. Si vous montez une marche d'escalier, je vais sentir que votre corps monte ou descend. Donc, cette technique de dire « laissez la personne prendre votre bras si elle en a besoin », c'est ce qu'on montre. Mais pour que ce soit simple là, pour vos auditeurs, qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Parce
que
j'imagine que dans la rue, ça doit vous arriver quand vous arrivez, quand arrive le moment de traverser la rue. Est-ce que des gens qui le font par gentillesse, mais qui ne vous le demandent pas, qui vous prennent par le bras puis qui vous...
Je vous dirais moins qu'il y a 30 ans. Je sais pas toi, Bianca, si tu as eu des expériences comme ça, mais moi, j'ai eu dans le passé des gens qui me prennent le bras puis qui me poussent.
Eh.
On veut pas ça.
Non, ben non.
Mais
surtout pas, oui.
Mais on découvre, en perdant la vue plus tard, on découvre les gens autrement. On découvre le malaise que les gens ont. Ça, c'est viscéral, on n'a pas besoin de voir pour le comprendre. Il y a un malaise, il y a une inquiétude. Il y a des gens qui disent, oh, madame, je préférerais mourir que d'être dans votre situation. Toutes sortes d'histoires. ou d'autres histoires qui disent, vous êtes tellement extraordinaire et courageuse. Puis là, tu dis, ben écoutez, vous ne me connaissez pas. On peut peut-être se garder une petite gêne. Alors, non, c'est très particulier comment les gens s'adressent à nous parce que c'est visible qu'on a une canne blanche et qu'on se déplace dans un environnement qui, pour la plupart des gens, ça fait peur. Mais, en fait, tout ça pour dire que d'aborder une personne aveugle ou malvoyante, c'est vraiment de lui demander « est-ce que je peux vous aider? » Puis, selon le contexte, bien, en parler pour briser la glace.
Ouais. Évidemment, dans votre travail, Bianca aussi, vous jouez un petit peu un rôle de psychologue en même temps, j'imagine.
Bien, psychologue, c'est beaucoup dire, parce que dans l'équipe, c'est vraiment une profession. Puis, tu sais, quand les gens ont beaucoup de souffrance, il y a vraiment des façons de creuser dans la souffrance. Moi, mon travail, puis de la régler, pas juste creuser dedans. Mais moi, mon travail, je vais avoir une bonne oreille, je vais avoir une oreille attentive. Mais non, je dirais pas psychologue. Je dirais avoir une bonne écoute, avoir de l'empathie. Mais mon travail, ça va être beaucoup plus dans le concret. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne soit en mesure de faire les choses qui lui tiennent à cœur? Donc, je vais vraiment... c'est plutôt comme de l'enseignement, mais en tenant compte de la personne, de ses forces, de ses limites, de tout ce qu'on veut, de qui elle est. Fait que je dirais plutôt d'avoir une oreille attentive, de prendre le temps, tu sais, de laisser un espace pour que la personne, elle se sente confortable, qu'elle se sente bien, qu'elle puisse l'exprimer si il y a quelque chose qui lui convient pas. Oui, mais quand la personne a vraiment des enjeux à travailler, ben j'ai des personnes dans notre équipe vers qui je peux faire une référence où là, on va vraiment aborder un peu plus les enjeux psychosociaux.
Ouais. Au niveau de l'intelligence artificielle, là, bon, est-ce que vous en parlez de plus en plus là, de ce qui peut, enfin, des avancées?
C'est un rêve de Marie. Moi, j'ai tellement hâte de voir quelle va être ma profession dans 10, 15 ans. L'intelligence artificielle, ça soulève beaucoup de possibilités, puis en même temps, beaucoup de questionnements. Ce que je pourrais vous dire, il y a plusieurs applications qui sortent, puis des fois, c'est presque difficile de garder le fil parce qu'à chaque semaine, à chaque deux semaines, il y a des nouvelles choses. Un exemple que je trouve intéressant dans ma pratique avec les usagers, c'est par exemple quelqu'un qui a une vision très, très basse, qui doit apprendre à aller sur Internet. Les personnes qui ont une vision très, très basse, ils vont devoir tout faire... Comment je vous dirais, si on pense à l'ordinateur, par exemple, c'est sans la souris. Fait quand on met de côté la souris puis qu'on met de côté l'écran, bien, les personnes vont devoir apprendre des raccourcis clavier. Par exemple, on veut fermer une fenêtre. Au lieu d'appuyer sur le X, on fait Alt F4. Ça, c'est un exemple. Mais tout est comme ça. Imaginez chaque tâche, puis on va mettre de la synthèse vocale, tout ça. Bien, les applications d'intelligence artificielle comme ChatGPT vont permettre de plutôt que d'apprendre à faire la recherche sur Google où il y a beaucoup de codes nécessaires. La personne, par exemple, pourrait prendre un téléphone puis converser avec l'application ChatGPT. Ça demande un peu moins de connaissances. En même temps, ça ne répond pas à tous les besoins. Ce n'est pas la solution
miracle.
Exact, c'est ça. Ouais. Mais pour quelqu'un qui vient de perdre la vision puis qui a zéro, qui n'a plus de repères, ça peut être une façon un peu moins...
De se réapproprier son autonomie.
Oui, c'est ça. Il y a des applications aussi qui vont permettre de numériser du texte, de le faire lire, de reconnaître connaître des codes barres. Mais fait que ça offre beaucoup de possibilités. En même temps, il y a quand même des enjeux, parce que quand on fait numériser un document, ChatGPT, tout ça, ben c'est, après, on a un peu une perte de contrôle des données qu'on avait dans notre document. Donc, vous voyez, ça, c'est un questionnement
qu'on
a beaucoup.
Tout ça, c'est à réfléchir.
Oui.
Je sais que tu adores ton métier, mais quand je t'ai entendu parler, tu parlais de radio.
Oui.
Un médium que tu aimes beaucoup.
Oui.
Je me dis, tu serais une bonne ambassadrice et tu pourrais vraiment aider beaucoup de gens. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages éventuellement comme sideline, comme emploi?
Oui. Ben d'ailleurs, les deux, vous pourriez animer des balados parce que vous avez beaucoup à dire sur le sujet. Et c'est très intéressant, ben oui, parce qu'on pourrait aller vraiment vers quelque chose de très personnel, là. Notamment avec Anne, c'est vraiment passionnant de vous entendre. Ouais.
Bianca et moi, on est deux passionnés, en fait.
Peu importe, on parle de quoi, on est toujours passionnés.
C'est pour ça que j'ai remarqué à la table, je me disais, mon Dieu, ces deux filles-là sont tellement passionnées. C'était beau de vous entendre. Et je me dis, vous nous avez... En fait, quand j'étais avec vous, vous m'avez fait comprendre ce que vous vivez. C'était une belle conversation, puis je vous ai trouvée très accueillante.
Je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose à la question.
Bien sûr, on a quelques minutes encore.
La question sur l'intelligence artificielle, et comme moi, le diabète de type 1, c'est ma survie qui en dépend.
Ouais.
On a de plus en plus d'intelligence artificielle pour traiter le diabète de type 1. Alors, moi, je suis branchée avec un petit appareil qui parle à mon téléphone et qui me dit si mon sucre est trop haut, trop bas, et est-ce que je vais être en hypoglycémie ou en hyperglycémie bientôt. Mais comme je suis aveugle, j'ai à peu près pas accès à un appareil qu'on appelle une pompe à insuline, qui est un autre appareil qu'on met sur le corps et qui permet aux deux appareils de se parler pour dire « Hey, si le sucre est en train de monter, est-ce que la pompe devrait envoyer un peu d'insuline? Oui, c'est le temps d'en envoyer. » Ou « Non, il ne faut pas en envoyer parce que les deux se parlent. » Ça, c'est vraiment de l'intelligence artificielle.
Ouais.
Et malheureusement, les personnes aveugles attendent encore que Santé Canada approuve le dernier modèle qui est passé aux États-Unis et en France, mais qui n'est pas encore disponible au Canada, pour qu'une personne aveugle puisse aussi utiliser une pompe à insuline. J'attends ça avec impatience.
Parce que je fais juste dire aussi que vous m'aviez appris, Anne, que de plus en plus les gens diabétiques... En fait, le diabète est maintenant considéré comme un handicap.
Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Parce que...
Donc, vous avez de l'aide du gouvernement sur certaines choses.
Oui, c'est parce que dans la théorie, là, toujours le prof qui revient dans tout ça, c'est qu'on parle de situation de handicap. Et lorsqu'une personne est dans une incapacité de produire, de faire une activité... et que c'est dû à l'environnement, à des problèmes environnementaux, la personne va être en situation d'handicap. Et si l'environnement est adapté et modifié, elle va être en mesure de faire ses activités. Le diabète crée beaucoup de situations d'handicap. Beaucoup, beaucoup.
Alors, ce fut intéressant de vous rencontrer, mesdames. Et puis, j'espère qu'on va vous revoir dans d'autres circonstances. Et pourquoi pas à la radio, effectivement.
Ouais.
Pourquoi pas des balados, on vous lance l'idée. Et puis, Bianca Lucier et Anne Jarry. Alors, peut-être une nouvelle carrière pour vous deux.
Vous le souhaitez.
Alors, merci bien d'être venue nous parler.
Merci beaucoup. Merci à vous deux.
C'était fort intéressant. Merci beaucoup.
Vous écoutez Aime l'été.
Eh oui, Aime l'été, deuxième moitié d'heure. Alors, Nathalie, ça a été vraiment un plaisir, oui.
Oh.
Donc, une belle rencontre que tu as fait par hasard au restaurant, comme ça. C'est vraiment très chouette.
Deux femmes que je trouve vraiment extraordinaires.
Vous étiez dû pour vous rencontrer.
Faut croire.
Alors là, on va parler à Élie Marchand. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on s'est parlé il n'y a pas si longtemps, mais on avait parlé plus principalement d'un de vos romans, qui est une pièce de théâtre en même temps. C'est ça, c'était Sœur Sirène, hein?
Exactement, Sœur Sirène, qui n'a pas été un roman encore, qui est en adaptation pour un court-métrage vidéo.
Ah, d'accord. Bon, parfait. Vous savez, vous êtes connu comme auteur jeunesse. Les auteurs jeunesse, vous avez beaucoup d'imagination, vous avez des idées fortes, intéressantes. Vous savez comment écrire pour un jeune public. C'est très important parce que, en réalité, c'est par peut-être la lecture de vos livres que les jeunes peuvent s'intéresser, développer le goût à la lecture.
Oui, tout à fait. C'est certain que, en tout cas, je pense, je parle pour moi, mais je pense que mes collègues autoristes aussi seraient d'accord que quand on écrit pour le jeune public, on se sent une responsabilité par rapport au au public à qui on s'adresse. Donc, on a toujours notre lectorat en tête de se dire qu'est-ce qu'on est en train de dire à ces enfants-là ou ces jeunes ados-là qui nous lisent. Comment on a envie de transmettre le message qu'on a envie de transmettre.
Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu intimidant quand on pense que c'est ça, on porte cette responsabilité? Parce que quand on s'adresse à un grand public, bon, finalement, le roman qu'on écrit ou enfin peut être accueilli de différentes façons, mais dans le cas d'un jeune public, surtout d'un très, très jeune public, ça peut avoir quand même une grande importance, c'est ça, dans leur vie future, dans la compréhension de certaines thématiques, là, parce qu'évidemment, on l'a vu, ça s'est beaucoup développé à travers les années.
Oui, ben moi personnellement, je le prends cette responsabilité-là très très à cœur. Donc c'est quelque chose que je garde en tête à toutes les étapes d'écriture. Et puis je me questionne beaucoup comment aborder tel sujet, de quelle manière ça peut être interprété. Est-ce que tous les codes sont là pour que ça soit bien compris, qu'on ressente l'émotion également, que ce soit pas juste didactique. Et je pense que surtout dans les albums jeunesse, mais même aussi dans les romans pour ados, il y a une place à la métaphore, à la poésie qui est très grande. Et c'est là qui, pour moi, en tout cas, comme auteur, je trouve que c'est très intéressant de passer par cette voie-là, de dire, ah, comment, quelle métaphore je peux utiliser pour aborder tel sujet, pour qu'à la fois ça soit poétique, imaginaire, mais de toucher des sujets qui, pour moi, sont importants.
Exactement, parce que c'est ça, donc, faire rêver, amener de la poésie, mais aussi amener une compréhension de certaines choses. Et puis, c'est ça, vous devenez comme... en fait, ça peut aider les jeunes à mettre un peu d'ordre dans leurs propres émotions, très souvent, ouais.
Oui, ben moi, la littérature, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée toute ma vie. Puis, effectivement, il y a plein de livres qui m'ont accompagnée. Je me suis dit, ah, ce livre-là a fait une différence... a fait une différence dans ma vie, puis c'est pour ça que j'aime. Moi, je suis un grand, grand lecteur de littérature jeunesse, même depuis que je suis adulte.
Oui.
Je lis bon des albums, mais des romans pour ados, j'adore ça. C'est une littérature, moi, que j'aime beaucoup.
Élie, juste une question comme ça. Vous venez de dire que vous avez lu certains livres qui ont fait une différence dans votre vie. Êtes-vous capable de nous en nommer un ou deux? S'il y a des gens qui écoutent, là.
Ben celui-là, j'étais pas enfant quand je l'ai lu, mais je pourrais vous nommer le livre Le Lion et l'Oiseau. Je pense que c'est le premier livre de Marianne Dubuc, ou en tout cas dans ses premiers,
okay.
À la pastèque. C'est un livre extraordinaire qui parle de plusieurs choses. En fait, c'est la rencontre d'un oiseau qui s'est blessé, donc il peut pas s'envoler avec sa famille.
Okay.
Et c'est un lion qui l'accueille et qui l'héberge à sa maison pendant l'hiver. Et pour moi, ce message-là, ben, ça parle de plein de choses. Ça parle d'accepter un étranger dans sa maison, s'occuper de l'autre, comment on développe un sentiment d'amitié aussi.
Mm-hmm.
Et les images sont très, très évocatrices. Donc, il y a peu de mots, comme souvent c'est le cas dans les albums, mais la construction de cette livre-là de Marianne, il est formidable. Franchement, si vous l'avez pas lu, je vous conseille de tout de suite aller à la bibliothèque ou en librairie, vous le procurer. C'est Le Lion et l'Oiseau de Marianne.
Ouais.
C'est vraiment un livre. Et maintenant que je suis... Ouais. Pardon, allez-y.
Non, j'allais dire que Marianne, c'est une auteure peut-être très intéressante, très prolifique. Et puis, ben, évidemment, souvent, dans les livres jeunesse aussi, l'illustration est importante, ouais.
Oui, ça prend une place qui là peut nourrir encore plus l'imaginaire aussi et comment on dose bien tout ça. Puis ce que j'allais vous dire, c'est que maintenant que je suis parent, c'est formidable parce que je peux redécouvrir aussi certains des livres. Un qui m'a marqué, moi, quand j'étais enfant, c'était toute la série de Les aventures de Julie et Pichou. Et j'en ai gardé quelques-uns. Donc, il y a quelques livres que là, je lis à ma fille, moi, maintenant. Donc ça, c'est agréable aussi d'avoir ça. Cette passation-là d'un livre à l'autre.
Merci.
Mais c'est ça, c'est très... c'est vraiment très important dans la transmission. Et puis, avec les années, ben c'est ça, évidemment, au départ, souvent, les livres jeunesse, bon, c'était quelque chose d'assez ludique, là, finalement. C'était axé beaucoup sur le jeu et tout. Mais de plus en plus, là, on fait passer des messages plus importants. On aborde des sujets plus difficiles. On pense au deuil, on pense à l'intimidation. En fait, tout ce que les jeunes peuvent vivre et à des âges différents aussi, mais on aborde la sexualité. Vous avez quand même certaines thématiques dans vos romans.
Oui, j'aime beaucoup parler. Un thème qui revient souvent, c'est la liberté et la liberté d'être qui on est, en fait. Donc, j'essaie de donner la parole à des personnages qu'on entend peu. Et je me pose la question, qu'est-ce que ces personnes-là auraient envie, besoin de dire? Et donc, ça, c'est sûr que pour moi, c'est très important. Et ça, je parlais de la responsabilité plus tôt. Donc, n'importe quel sujet, c'est une responsabilité en tant qu'auteur. Mais quand on donne la parole à des gens qui ont peu la parole, la responsabilité de la représentation devient d'autant plus importante. Donc, si j'écris un livre avec un personnage trans, par exemple, ma pièce Sœur Sirène, c'était le cas.
Ça parlait comment de l'identité de genre, bien sûr, oui.
Exactement, d'identité de genre et d'une personne amputée, d'une enfant amputée. Comment je représente ces personnages-là dans le contexte d'une littérature où il y a peu de personnages qui sont trans ou qui sont amputés? Qu'est-ce que je leur fais dire? Donc, ça devient d'autant plus... Oui, le mot un peu stressant ou angoissant, c'est vrai qu'il vient par moment de dire il n'y a pas de représentation, puis un seul personnage ne peut pas tout couvrir l'étendue hein, d'une réalité. Donc, tu dis, bon, ouais, ben, alors pour me rassurer, ce que je fais, je me rappelle, c'est peut-être un personnage qui fera partie d'une grande littérature éventuellement. Pour l'instant, il y en a peu, mais de plus en plus, il y en aura d'autres.
Ouais, exactement. Et puis bon, vous avez écrit aussi le livre, pas à dire le Racine qui va être porté au théâtre là, également à l'automne au CNA.
Exactement. Oui, Racine va être joué au Centre national des arts à Ottawa. Il vient de finir la tournée à la Maison Théâtre en juin dernier. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une pièce. Je parlais tout à l'heure de dire comment j'aime donner la parole à des gens qu'on entend peu. Donc là, c'était pas une réalité d'un sujet politique ou sociétal. C'était un enfant de très, très bas âge. Je me suis posé la question, et si je faisais parler un enfant qui n'a pas encore l'âge de parler? Donc un enfant en bas de 2 ans. Donc, de 6 mois à 1 an, qu'est-ce que cet enfant-là nous dirait? Comment cet enfant-là voit le monde? Alors, le pari que j'ai fait, je me suis dit, ben, je vais essayer de me mettre à la place de cet enfant-là, à travers ses yeux, raconter sa réalité dans un langage là, qui serait plus d'un adulte ou d'un enfant, en tout cas, en âge de parler. Mmh. Et donc, c'est un changement de perspective aussi qui est assez intéressant de dire, ah, comment cet enfant-là, qui ne peut pas s'exprimer par des mots, le ferait s'il le pouvait?
Oui. Alors ça, c'est intéressant. Donc, un beau sujet encore là. Il y avait aussi c'est Récit d'une chaussure. Ça, c'est très drôle. C'est pour les enfants de 5 ans et plus.
Oui, Récit d'une chaussure, ça, c'était un projet qui est parti un petit peu de du documentaire. C'est pas une œuvre documentaire en soi, mais on est allé à la recherche, vraiment. Donc, c'est récit au pluriel là, pour les auditoristes. Donc, il y a plusieurs récits. Ce spectacle-là, il est construit. Il y avait 7 récits autour de la chaussure. On a donné des centaines d'ateliers avec des enfants, mais aussi des personnes immigrantes, des personnes âgées. Et on posait la question, et vous, avez-vous une histoire de chaussure que vous aimeriez nous raconter?
Ouais.
Alors, on a recueilli vraiment là, des bijoux d'histoire. Elles ne se sont pas toutes retrouvées dans notre spectacle. Il a fallu faire des choix à un moment. Mais chacune des histoires rappelait la personne, rappelait son vécu. Donc, c'était une autre façon de travailler aussi que j'aime beaucoup.
Ouais.
Comment
savoir, par exemple, ce qu'une personne ressent vraiment à l'intérieur? On dit toujours, ben, il faut se mettre dans ses chaussures. C'est vraiment l'expression.
C'est notre point de départ, oui.
C'est le point de départ, donc. Alors, effectivement, donc ça a été... Alors, on pense à Racine, donc c'est vraiment très intéressant comme propos, Récit d'une chaussure. Vous en avez écrit d'autres, bien sûr. Mais j'aimerais vous entendre aussi par rapport... Ben, là, on a eu des auteurs comme Élise Gravel, hein, vous savez, bon, ses œuvres, là, on parle de censure. Il y a ce phénomène-là qui se passe au niveau de la littérature jeunesse. C'est quand même assez particulier. On pense aux livres d'Élise Gravel qui ont été bannis des écoles juives, hein, je pense.
Les écoles juives, je ne suis pas au courant, mais je sais qu'aux États-Unis, dans plusieurs
il y avait
États,
la...
Bon, la traduction a été bannie, là, notamment
oui.
Au Texas.
Exact.
Oui. Non, mais c'est malheureux parce que vraiment, c'est pas des propos qui sont du tout choquants. Le seul que j'ai en tête d'Élise Gravel, c'est la tribu des tout nus.
Oui.
En fait, qu'on voit un peu, puis c'est ça qui a choqué certains adultes, hein, parce que c'est de là qu'elle vient, la censure. Parfois, les adultes pensent que les enfants ne sont pas prêts ou prêtes à entendre telle ou telle histoire, mais en vrai, c'est les préjugés qui viennent des adultes, de se dire les enfants ne sont pas capables de comprendre telle chose encore, mais il faut faire confiance que les autoristes jeunesse on fait leur travail, ils sont capables de travailler ces sujets-là spécifiquement pour les
C'est qu'en fait, et puis bon, dans le cas de ce qui s'est passé aux États-Unis, c'était la candidate républicaine au poste de secrétaire d'État du Missouri, Valentina Gomez, qui avait évidemment suscité la controverse parce qu'elle avait, avec une espèce de lance-flamme, elle avait brûlé un livre québécois jeunesse qui traitait de la sexualité, et c'était et vraiment, on avait réalisé que c'était un livre québécois. Et c'était tout nu, justement, publié en 2019. Et puis, c'est ça. Pourtant, c'était un livre qui était très, très, très bien fait. Et puis, c'était pas un livre récent en plus. C'était vraiment... Et les écoles avaient ce livre-là en main. Et puis, en tout cas, comme quoi, effectivement, les livres jeunesse peuvent semer la controverse même. Alors, ça vous donne une responsabilité additionnelle. C'est quand même incroyable.
Oui, c'est intéressant cette nouvelle angle que vous apportez, parce que en fait, il faut évidemment avoir le public enfant en tête, parce que c'est celui-là à qui on s'adresse. En tout cas, moi, c'est pour les enfants que j'écris, mais il faut garder aussi en tête que ces enfants-là n'auront pas accès aux livres, je parle avant l'adolescence, à moins qu'un adulte les introduise ou leur donne l'autorisation. Donc, il faut aussi être consciente de comment ça va être perçu chez les adultes. Donc, c'est comme souvent une écriture à double niveau. Comment j'écris pour mon public principal et comment je l'écris aussi pour l'adulte qui va peut-être lire à son enfant ou qui va introduire ce livre-là à son enfant.
Exactement. Alors, écoutez, c'est vraiment... Puis, il y a vraiment aussi... les bibliothèques, ça, vous êtes un passionné de bibliothèques. Il faut amener nos enfants dans les bibliothèques parce que c'est vraiment un premier pas, justement, vers la lecture, de les initier très, très jeunes à la lecture. Et les bibliothèques font du beau travail à ce niveau-là.
Oui, et puis, il y a des recommandations aussi de lecture. Moi, je suis allée à la bibliothèque récemment, j'ai emprunté Tigre et chat. C'est un livre qui est récemment traduit, ça vient de l'Australie, mais il est traduit en français et il est disponible à La Joie de lire. C'est un très beau livre, illustration superbe entre un chat et un tigre. Donc, je vous le recommande. Et puis sinon, outre les bibliothèques, j'adore aussi comme cadeau de voyage. Quand je vais dans d'autres pays, j'aime acheter des livres jeunesse. Et d'où on parlait de l'importance des illustrations. Bien, souvent, c'est dans les langues que je ne parle pas. Donc, j'ai ramené de la Suède certains livres qui me sont... dont je ne comprends pas l'histoire, parce que je ne lis pas suédois. Et quand je le lis à ma fille, on essaie d'inventer ensemble qu'est-ce qui se passe.
Ah, juste peut-être à regarder aussi les illustrations, peut-être, oui, c'est ça.
Ah, exactement, regarde les illustrations, se demande que se passe-t-il dans cette histoire dont on ne comprend pas les mots.
Exactement. Alors, ça peut être évidemment la lecture sous forme de BD, ça pourrait être des romans graphiques, enfin, qu'importe, là. Et puis, le livre jeunesse est vraiment un formidable outil de développement aussi pour les enfants. Toujours avoir ça en tête. Et puis, maintenant, avec des sujets qui sont très variés et qui vraiment peuvent aborder des sujets très, très pointus, hein. Ça peut être l'inceste, ça peut être plein de choses, le consentement. Alors, vraiment, vous faites un travail formidable. Je tenais à vous reparler, justement, pour parler de littérature jeunesse. Je pense que c'est le point de départ d'une belle aventure pour les jeunes, d'un beau développement. Alors, merci infiniment d'être venu nous en reparler de littérature jeunesse, Élie Marchand.
Merci beaucoup, c'était un réel plaisir.
Merci.
Merci infiniment. Au revoir et bonne journée à vous. Et on accueille notre dernier invité de la journée. Ça va être fort intéressant. Thomas Gaudy de Ludociel pour tous. Alors, ce sont des jeux vidéo adaptés. Et ce qui est très intéressant, Nathalie, c'est qu'il connaît nos invités.
Ben oui,
quand... en fait, nos dames, là.
Tantôt, oui. Quand Anne est sortie, ils se sont salués. Je me dis, c'est un monde, c'est un petit monde, mais
Anne
vous
Jarry,
connaissez dans
oui.
quelles circonstances?
Oui, tout à fait. Ben, on a eu l'occasion de collaborer à plusieurs reprises. Un premier projet en rapport avec des thématiques d'accessibilité universelle lorsque Anne travaillait à l'Université de Montréal. Et plus récemment, un projet du nom de Voix rêvée qui mettait Anne vraiment en avant puisqu'il s'agissait de mettre... de partager sous une forme ludique des rêves, une bonne partie des rêves, dont un rêve de Anne Jarry, sous une forme accessible, ludique et plaisante à écouter.
Ouais. Vous êtes, Thomas, vous êtes un passionné de jeux vidéo, vous êtes un accro,
oui,
pour ainsi dire. Mais vous êtes très critique par rapport aussi aux jeux vidéo, c'est ça qui est intéressant.
Également.
Et maintenant, vraiment, vous trouvez que, je ne sais pas, comment vous diriez ça, ça manque de point de vue plus intéressant. Qu'est-ce que vous voudriez voir dans les jeux vidéo?
Il y a plein de choses à attendre. Il y a plein de problèmes éthiques et critiques à pointer du doigt. Ça pourrait être très vaste. Évidemment, dans le sujet qui nous rassemble ici, ce serait probablement un manque d'accessibilité criant et depuis des dizaines d'années maintenant. Alors, il y a quelques bons exemples quand même de jeux grand public qui montrent qu'il est possible d'obtenir des jeux accessibles. Je pense toujours au vieillissant maintenant Last of Us 1 et 2, qui montrent qu'on peut faire des jeux grand public accessibles pour le très grand nombre, y compris des joueurs et joueuses aveugles. Mais la suite tarde à venir et... Voilà. Ouais.
Alors, c'est ça. Donc, vous vous êtes donné comme mission chez Ludociel, justement, de faire, de créer des jeux vidéo adaptés. Alors, ça veut dire quoi, concrètement?
Alors, c'est un vaste sujet,
simplement. C'est difficile à résumer, oui.
C'est des jeux vidéo dans une optique d'accessibilité universelle qui pourrait être pris en main par le plus grand nombre. Donc, quel que soit le type de public, voyant ou non-voyant, quel que soit le type de capacité motrice, avec mes deux mains ou avec plus de limitations, est-ce qu'on peut envisager de faire des jeux qui puissent s'adresser vraiment à tous, quel que soit les types de handicap?
Oui, exactement. Mais plus encore, c'est-à-dire que là, par exemple, il y a évidemment des outils technologiques qui sont en développement de plus en plus. Puis là, justement, on abordait aussi l'aspect intelligence artificielle avec les dames qu'on a reçues, avec Bianca, entre autres, qui enseigne au niveau de l'adaptation, dans le cas des gens qui ont une incapacité visuelle. Mais dans le cas, justement, de jeux vidéo, c'est étonnant parce qu'il y a des gens qui sont en situation de handicap qui arrivent aussi à jouer des jeux vidéo. Ça veut dire que techniquement, là, il y a aussi toute une... maintenant, de nouvelles façons de faire.
Il y a des façons de faire. En fait, ça dépend beaucoup de est-ce que le design va être prévu à la base par des gens qui veulent concevoir le jeu pour être assez inclusif avec toutes sortes de profils atypiques. Il n'y a rien de compliqué techniquement, il n'y a rien de coûteux économiquement. Il s'agit surtout de se poser les bonnes questions et de ne pas se tromper dans des choix de design. Alors, un exemple tout simple, nos auditeurs connaissent probablement des jeux de plateforme, typiquement Mario qui va sauter de plateforme en plateforme. Ce jeu-là, avec de l'apprentissage, on peut y jouer sans le regarder. Mais ça va se faire de façon pénible parce qu'il manque des indications sonores. Une indication sonore classique, très importante, c'est l'avatar qui va courir, qui va heurter un obstacle devant lui. Dans la plupart des Mario existants, cet événement de collision entre l'avatar et le mur va être silencieuse.
Ah d'accord, donc on va jouer avec le son là, à ce moment-là.
Là, on joue avec le son en général pour le rendre accessible. Et si on oublie certains signaux sonores anodins, qui ne coûteraient rien économiquement à produire et qui seraient même agréables pour tous les types de publics, même les publics voyants, un bruit de collision quand Mario cogne un mur, c'est sympa et puis ça fait toute la différence entre un jeu qui peut être plus facilement pris en main par une personne aveugle et un jeu qui est beaucoup plus difficile à prendre en main.
Oui. Dites-moi donc, avant de poursuivre, là, parce qu'évidemment, il y a plein de jeux, mais c'est surtout les jeux, justement, on parle d'accessibilité, mais c'est surtout aussi pour des malvoyants ou enfin, c'est encore... on ne parle pas nécessairement d'autres handicaps, là. Mais en fait, parlez-moi quand même de votre intérêt à la base, là. Vous arrivez ici au Québec et puis vous partez votre entreprise et puis je pense que vous étiez avec votre conjointe, hein, dans ce projet-là.
Oui, tout à fait.
Et puis là, vous avez décidé comme ça de qu'est-ce qui vous a incité? Qu'est-ce qui a été le petit élément déclencheur?
D'accord. Ben, il y en a eu plusieurs. Je ne vais pas partir dans un trop long discours, en fait. Mais surtout, j'ai eu l'occasion de faire un doctorat consacré à l'accessibilité des jeux vidéo. Donc, il y a eu beaucoup de belles rencontres. Je salue en particulier mon tuteur industriel, Gilles Candotti, et mes tuteurs et directeurs de mémoire, Dominique Archambault et Stéphane Natkin. Et puis, à cette occasion-là, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de rencontres de personnes fantastiques qui me montraient comment on pouvait adapter des jeux. Et encore en amont, en fait, c'est un programmeur voyant qui m'a donné le goût de me lancer dans cette aventure. Alors, je ne l'ai pas rencontré en direct et malheureusement, j'ai plus son nom. Je me souviens par contre de son jeu. Suite à un accident de voiture qu'il a eu, il était renversé par une voiture, il a perdu la vue.
Ah,
alors, heureusement pour lui, c'était temporaire, mais ça a duré quand même plusieurs mois. Et puis, durant cette expérience, il s'est trouvé un peu confronté aux problèmes d'accessibilité. Il aimait beaucoup le jeu vidéo et il avait conçu à l'époque un jeu qui, hélas, a disparu du marché. Trax, c'était un jeu de tir, en fait. Mais voilà, il avait expliqué un peu sa démarche. J'avais trouvé ça très inspirant. Et puis, en quelque sorte, j'ai pris le relais et je me suis mis à mon tour à concevoir des jeux vidéo accessibles dans un contexte où, pour le grand public, on ne manque pas de loisirs.
Il y avait un réel besoin.
Voilà, tout à fait.
Absolument. Tout le monde a le droit de jouer aux jeux vidéo, bien sûr. Et puis, même si, on sait que les jeux vidéo, justement... L'autre jour, j'entendais une émission là, qui parlait des bienfaits, à la fois, oui, des aspects négatifs des jeux vidéo, mais il y a aussi quand même des bienfaits au niveau cognitif. Enfin, il y a plein d'éléments positifs. Là. Il n'y a pas que du négatif dans le fait de jouer à des jeux vidéo. Là. On ne perd pas que notre temps toujours à jouer des jeux comme ça.
Tous les jeux ne sont pas chronophages. Certains le sont énormément. Donc, évidemment, il faut être vigilant. En fait, ça dépend. C'est un média. Et puis, ça dépend vraiment lequel on va choisir, qu'est-ce que ça va... Mais voilà, les bienfaits et les inconvénients dépendent tout à fait complètement du style de jeu qu'on va choisir. C'est comme un livre, hein. Il y en a des atroces et il y en a qui sont extrêmement inspirants.
Oui, c'est sûr. C'est comme le cinéma, c'est comme n'importe quoi. Et dans ce sens-là, vous avez ce côté critique, bien sûr. Mais alors, finalement, c'est ça, parlant d'accessibilité, alors c'est un... Vous faites des rencontres, comme on dit, vous rencontrez des gens d'ailleurs qui conçoivent aussi des jeux vidéo. Est-ce que ça se parle de plus en plus de créer à la base, comme vous le dites, des jeux accessibles?
C'est toujours complexe, en fait. Ça dépend vraiment de chacun. Mais en exemple très concret, nous, à notre niveau, on a conçu une trentaine de jeux très, très simples qui sont accessibles, qui ont différentes thématiques d'accessibilité par rapport à différents types de handicaps visuels, moteurs, cognitifs ou d'autres encore. Et puis, actuellement, on a eu un petit revirement. On est toujours en partie dans le jeu vidéo et on choisit plutôt de s'associer à d'autres initiatives. Et puis, par exemple, là, je peux parler d'une initiative ludique. On choisit plutôt de concevoir notre propre jeu, de rejoindre le projet de jeu vidéo accessible d'un partenaire. Donc là, c'est bien. Avec son autorisation, je peux en parler. Donc, c'est le projet de Manuel Fawin, que je salue, qui est lui-même non-voyant, qui est un producteur et designer musical. Il a sa propre entreprise de production sonore. Il fait toutes sortes de services audio, de la conception de musique, de jingle, de podcast et de services numériques. C'est très varié. Et puis, il a depuis plusieurs années le projet de conception d'un jeu vidéo sonore qui puisse servir des besoins de locomotion. Donc, pour des personnes en fait, qui ont besoin de s'entraîner à se déplacer d'un endroit à l'autre en apprenant différents types de signaux. Et donc, ce projet-là, plutôt que nous de faire nos propres projets, on choisit d'approcher ce type de partenaire et puis de voir comment est-ce qu'on pourrait ensemble et puis avec l'aide d'autres personnes, probablement l'aide d'une équipe étudiante dans laquelle je travaille, réaliser un jeu. Alors, pour l'instant, on en est au stade du concept. Hein. C'est son projet, hein, je tiens à le souligner, c'est pas le nôtre, on l'aide. Et puis, ça pourrait être un concept qui va se greffer avec des thématiques de réalité virtuelle.
D'accord,
la réalité virtuelle, vous savez, hein, c'est les casques qu'on met sur la tête. Souvent, c'est un périphérique qui est considéré comme étant visuel. Quel intérêt d'utiliser ce type de périphérique pour un jeu audio? En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est visuel, mais audio aussi. Si je tourne la tête, mon environnement sonore, il va tourner également. Et donc, dans une démarche de locomotion avec un instructeur qui peut nous aider, ça peut nous permettre de nous déplacer réellement dans un espace le casque peut s'adapter, de tourner la tête et puis d'entendre vraiment les sources sonores changer autour de soi et d'avoir un environnement au début dans un bâtiment et puis qui va s'ouvrir progressivement vers quelque chose de plus en plus complexe.
Nathalie, tu avais une question?
En fait, rapidement, parce que le temps passe. Ludociel, sur votre site Ludociel, les gens peuvent aller chercher. Il y a des vidéos, il y a des gens qui se regroupent pour jouer en réseau. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher sur Ludociel?
Alors, sur Ludociel, en première ressource, on a un répertoire de jeux vidéo accessibles. En allant sur notre site, vous pouvez voir des jeux gratuits ou payants, français ou en anglais, sur différents types de plateformes, et on en a plusieurs centaines. Et c'est un répertoire qui est mis à jour régulièrement avec l'aide de bénévoles. Je remercie en particulier Pierre Tang de l'île de la Réunion qui nous aide toutes les semaines avec de nouvelles références. Il y a beaucoup d'autres bénévoles, mais lui, c'est notre meilleur allié.
Alors donc, les gens peuvent se parler, se regrouper, et puis bon, ça crée aussi une socialisation en même temps autour d'un jeu,
Également, et pour ça, on a un espace de discussion sur lequel il y a une belle communauté, c'est sur un serveur Discord, la Taverne à Jeux.
C'est donc, ça, la Taverne à Jeux. Oui, la Taverne à Jeux également, sais.
Et donc, vous pouvez la rejoindre, il y a une belle communauté. Alors, ce n'est pas le seul espace, en fait, mais là-dessus, également, ça discute d'accessibilité de toutes sortes de jeux.
Alors, on va sur Ludociel, bien sûr, votre site Internet. Thomas Gaudy, ça a été vraiment intéressant. C'est un peu complexe, évidemment, le jeu vidéo, tout ça, il y a plein de choses à dire, mais en tout cas, on y reviendra un autre jour, peut-être. Alors, merci bien.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci.
Et puis, Nathalie, c'est le mot de la fin. On se retrouve demain entre midi et 13h.
Oui, on se retrouve demain.
Aime l'été.